Bonjour Marc Heyskens.
Bonjour.
Eh bien, merci de nous accorder ces quelques minutes sur Radio Judaïka ce matin. Marc Heyskens, vous avez une longue carrière politique, hein, non seulement au sein du CDNV, mais aussi en tant que ministre. Vous avez notamment été Premier ministre, c'était en 1981. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral s'apprête à fêter ses un an, hein, le 1er octobre prochain. Est-ce que d'après vous, ce gouvernement fonctionne et surtout, est-ce qu'il tient la route ?
Mais je crois qu'il fonctionne étant donné la situation politique belge, c'est-à-dire la multiplication des partis politiques. La multiplication des partis politiques, ce n'est pas la faute aux politiques, c'est la responsabilité des électeurs. Les électeurs ont réparti leur vote sur une douzaine de partis politiques en Belgique. Et donc, pour trouver une majorité, il faut, en l'occurrence pour Vivaldi, 7 partis politiques différents. Et donc le problème, c'est que chaque parti a son programme, demande aux électeurs de voter pour eux, en promettant aux électeurs de réaliser leur programme, mais une fois dans un gouvernement de coalition, ils doivent évidemment accepter un compromis, c'est-à-dire abandonner 20, 30, 50% de leur propre programme. La conséquence, c'est une grande déception de la part des électeurs, qui ne comprennent pas le compromis. Or, le compromis, c'est l'art, au fond, de gérer la démocratie. Et donc, la situation actuelle, elle est de nature à quand même affaiblir un peu la crédibilité de la politique, mais c'est la conséquence, peut-être, d'un système électoral qui donne trop facilement le pouvoir aux électeurs de répartir leur voix sur de très nombreux partis politiques.
La Vivaldi ne fait cependant pas l'unanimité en Belgique, hein, notamment pour l'opposition, et je pense à la NVA surtout. Bart De Wever ne croit pas que ce gouvernement mènera à bien les réformes structurelles nécessaires. Et pour lui, le contraste démocratique entre la Flandre et la Wallonie deviendra bientôt si grand que personne ne pourra plus accorder de crédibilité au gouvernement fédéral. C'est pourquoi, selon lui, seul le confédéralisme peut offrir une solution et seule la NVA peut le faire. Quelle est votre analyse sur ces récentes déclarations de Bart De Wever ?
C'est une déclaration totalement inapte et illogique. Il y a une évidence qu'on ne souligne pas assez, pas non plus au niveau des médias. Mais une évidence aveuglante, qui est tellement aveuglante qu'on ne la voit pas, c'est que plus on donne des compétences aux régions, plus il faut que les décisions prises par les régions conduisent à une attitude unitaire belge. Car 70 à 80% des décisions prises par les pouvoirs belges sont la conséquence de directives, de lois et de décisions au niveau européen. Et l'Europe ne connaît que la Belgique. Je prends par exemple le problème budgétaire. L'Europe va juger du budget de la Belgique, qui est composé du budget fédéral, des budgets régionaux, de la sécurité sociale et des budgets des provinces et des communes. Et donc il faut toujours et de plus en plus un accord entre les composantes institutionnelles de la Belgique, c'est-à-dire nos 3 régions. Et dès lors, le confédéralisme ne peut pas exister, ne peut pas fonctionner, à moins que, et c'est là la logique perverse évidemment de la NVA et du Vlaams Belang, que le confédéralisme ne soit que l'antichambre du séparatisme. Alors évidemment, la Flandre devient un État indépendant, une République de Flandre. Alors commencent d'autres difficultés, car un nouveau pays n'est pas membre de l'Union européenne. Il faut qu'une Flandre devenue une république demande son adhésion. Or, l'adhésion se décide par les autres membres, les membres sur place, à l'unanimité. Et je ne vois pas les autres pays comme ça approuver l'entrée d'un nouveau pays, d'autant plus que la petite Belgique, après la séparation de la Flandre, va continuer à exister avec Bruxelles et la Wallonie. Et ils vont évidemment s'opposer à l'entrée d'une Flandre qui a décrété son indépendance.
Mmh, donc le régionalisme et le séparatisme qui tient à cœur à Bart De Wever, entre autres, vous n'y croyez pas, vous ?
Non, 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 ça n'est pas du tout faisable. C'est une fuite en avant. Il veut évidemment faire la concurrence au Vlas Blanc. Mm-hmm. Mais de Weber, au fond, dans sa propre logique, il doit défendre le séparatisme. Ça, c'est une position logique. Mais avec les conséquences, évidemment. Le confédéralisme, comme il l'entend, tout scindé, la fiscalité, le budget, les dépenses, la sécurité sociale, on va donc organiser en Belgique, qui est un pays de multinationales et aussi d'entreprises multirégionales, la concurrence fiscale que vont faire ces entreprises qui ont des sièges dans deux régions, dans trois de nos régions. Que faire des 250 000 Flamands qui vont tous les jours travailler à Bruxelles? On va vouloir les imposer à Bruxelles. Ça va coûter à la Flandre entre 2 et 3 milliards. Est-ce que c'est là ce que l'on veut? Je pense au fait que la Flandre a eu l'intelligence de situer ses institutions importantes, politiques, le gouvernement flamand, le Parlement flamand, l'administration à Bruxelles, capitale de l'Europe, dans une structure confédérale, il faudra que la Flandre installe ses instances politiques en Flandre, à Gand, en Anvers ou dans un petit village. Mais quitter Bruxelles, la Flandre absente de la capitale de l'Europe, c'est quand même pas une grande victoire.
Justement, on va continuer à parler de Bart De Wever. Récemment, lui et le député NVA Michael Freilich ont appelé le gouvernement fédéral à boycotter la conférence de Durban qui s'est tenue ce mercredi, donc hier, à New York. Alors, on le sait, dans plusieurs éditions de cette conférence, de nombreux propos antisémites et haineux à l'égard d'Israël ont été proférés. Finalement, la semaine dernière, le gouvernement a annoncé qu'aucune représentation ministérielle ne se rendra à cette conférence. Cependant, il n'était pas exclu qu'un diplomate belge s'y rende. Donc on ne peut pas vraiment parler de boycott de la part de la Belgique. Comment comprendre finalement, d'après vous, cette ambivalence belge?
Oui, je ne connais pas au fond le dossier très bien, mais il est déjà très important que la Belgique n'y soit pas représentée par un membre du gouvernement. Mmh. En cela, la Belgique a d'ailleurs suivi l'attitude de beaucoup d'autres pays européens, à commencer par les Pays-Bas. On s'est concerté avec les Pays-Bas, j'imagine. Y envoyer un diplomate qui est un fonctionnaire, bon, c'est une personne présente, mais qui ne peut pas jouer un rôle actif. Je crois qu'on a un peu cherché à ménager la chèvre et le chou. Mais c'est quand même un signe assez important de la part de la Belgique de ne pas participer.
Marc Hiskens, au cours de votre carrière politique, vous avez également été ministre des Affaires étrangères. Et justement, en parlant d'affaires étrangères, on va rapidement revenir sur la crise en Afghanistan. Alors, selon certains analystes, cette crise afghane met en lumière les limites de l'Union européenne en tant qu'acteur géostratégique. Dans les années 90, pendant la guerre du Golfe, vous disiez, je cite, « L'Europe est un géant économique, un nain politique et un ver de terre ». Militaire. Alors maintenant, on est 30 ans plus tard. Est-ce que vous êtes toujours de cet avis, si on remet cette phrase dans son contexte et qu'on la transpose à l'exemple de l'Europe face à la situation actuelle en Afghanistan?
De plus en plus. Et cela a été prouvé non seulement par l'affaire afghane, mais la semaine passée par le fait que les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne ont conclu une alliance militaire et ont annulé un contrat de livraison de sous-marins nucléaires par la France à l'Australie, sans consultation préalable. Je sais bien que M. Biden a téléphoné à M. Macron hier soir et que tout soi-disant a de vous régler, mais quand même. Et donc, il est de plus en plus évident que l'Europe, si elle ne parvient pas à s'organiser en tant que structure vraiment fédérale, une véritable unité politique, avec des prises de décision efficaces. Aujourd'hui, pour beaucoup de domaines, il faut encore l'unanimité. On donne donc un droit de veto à n'importe quel pays qui est gouverné par des démagogues, je pense à la Hongrie, un peu à la Pologne, etc. Non, il faut donc instaurer la règle de la majorité qualifiée au sein du Conseil européen. Il faut pondérer les voix de chaque membre et puis additionner les votes pour voir s'il y a une majorité, par exemple, des deux tiers. Et ainsi, on pourra progresser sans avoir toujours l'accord de tous les membres. Mais ça implique évidemment un important transfert de souveraineté vers les instances européennes, la Commission étant alors appelée à devenir vraiment un gouvernement européen. Si on ne fait pas cela, on sera de plus en plus minorisé. L'Europe n'est qu'une péninsule, comme un gant un peu fripé qui pend au grand continent eurasiatique. Aujourd'hui, il y a une lutte entre les géants, les États-Unis, la Chine. La Russie est affaiblie et l'Europe compte de moins en moins. Et ça dépend évidemment des Européens. Mon troisième point, que l'Europe est un ver de terre militaire, je ne plaide pas pour que l'Europe aille dépenser énormément de milliards à la création d'une armée européenne. On peut faire mieux évidemment avec les budgets existants. Si on additionne tous les budgets militaires de chaque pays, on arrive à un immense montant et on peut utiliser ce montant beaucoup plus efficacement qu'aujourd'hui, qu'il est réparti entre 27 pays membres. C'est ça qu'il faut faire. Et il faut évidemment maintenir l'OTAN. Les États-Unis sont là un facteur tout à fait nécessaire et il faudra aussi que l'Europe contribue davantage peut-être à l'OTAN. C'est ce qu'il faut faire si on veut maintenir ou augmenter notre crédibilité qui aujourd'hui n'est pas brillante.
Merci beaucoup Mark Eyskens pour vos éclairages et pour vos réponses. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes sur Radio Judaïka ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez été Premier ministre en 1981. Vous étiez également membre du parti CDNV. On était très contents de vous avoir avec nous sur nos ondes ce matin. Merci beaucoup.
Merci, un grand plaisir. À bientôt, à la prochaine. Merci.